Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Abraham ben Israël, de Chon Evracha, qui est décédé aujourd'hui et enterré aujourd'hui, que Dieu ait son âme et qu'il aille tout droit au paradis. Amen. Amen. La question de Shimon.
On voit dans beaucoup de sparim et dans beaucoup d'écrits, on parle beaucoup de la Kedusha de Yerushalayim à l'époque, l'époque du Beit HaMikdash et tout ce que ça représentait. Aujourd'hui, on palpe encore un tout petit peu la Kedusha de Yerushalayim, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors comment ça peut nous manquer?
Ouais, c'est une bonne question. Alors, je rappelle un peu ta question pour ceux qui, les novices qui ne parlent pas, parce que tu as parlé moitié en hébreu, la Kedusha, etc. Donc, Yerushalayim, c'est le trône d'Hachem, c'est de là qu'Hachem régnait et gérait le monde entier. Une petite parenthèse intéressante, le monde le plus haut qui existe, c'est le monde des lettres. Quand Hachem a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé des forces, 22 forces. Et elles correspondent aux 22 lettres de l'alphabet. D'ailleurs, en hébreu, comment est-ce qu'on dit lettre? On dit hot. Qu'est-ce que c'est que hot? C'est un signe. Signe de quoi? Quand je fais un signe, c'est toujours le signe d'une chose. Les lettres sont des signes de quelque chose. De quelle chose? De ces 22 forces divines, qui sont le monde le plus haut qui existe. Il a agencé les différentes lettres, et comme ça, il a créé le monde. C'est pour ça que l'on dit que la langue sainte, c'est une langue, c'est la langue que Dieu parle. C'est pas qu'Hachem a une bouche et s'exprime. Quand on dit que Dieu parle, ça veut dire qu'il y a une expression. L'expression vient du mot ex, ça veut dire mettre à l'extérieur. C'était, il avait une pensée, il avait un désir et il le réalise. La réalise, c'est passer de intérieur à extérieur, de virtuel à réel. C'est ce qu'on appelle la parole. Pour cela qu'en hébreu, on appelle les objets davar. Davar, c'est aussi parole. Davar, c'est une chose. Mais aussi, Elohim Dvarim Shadibra Moshe, le livre de Dvarim, commence aussi les paroles qu'a dit Moshe. Dvarim, d'accord, pluriel de davar, davar, dvarim. Ou bien, quel mot on utilise en hébreu pour dire objet? Chefetz. Chefetz, aussi, c'est un désir. Ils sont entourés de paroles et de désirs d'Hachem, réalisés. C'est ça la réalité. Donc, à cette fin, Hachem utilisait les 22 lettres de l'alphabet, et chaque mot, d'après les lettres qui le constituent, est le résultat de la composition des forces divines correspondant aux lettres qui le constituent. C'est un cours à part, un cours que j'ai fait très longtemps, qui est très très beau, ça s'appelle « Quelle langue Dieu parle-t-il » où j'explique, je prouve par A plus B, c'est unique à la langue hébraïque, aucune autre langue peut faire cela. Comment vraiment, en jargon, on appelle qu'il y a une adéquation totale entre le signifiant et le signifié. Le signifié, c'est l'objet que je veux signifier en disant le mot, et le mot qui le signifie s'appelle le signifiant. En français, il n'y a aucun rapport. Je dis feuille, d'accord. Pourquoi on appelle ça feuille? J'aurais pu l'appeler aussi cocorico ou avoir raccourci, d'accord. C'est tout à fait arbitraire et aléatoire. En hébreu, non. Chaque mot correspond à l'essence même de l'objet qu'il désigne. Maintenant, non seulement Dieu crée le monde par les lettres, mais il gère le monde par les lettres. Comment il fait pour gérer le monde par les lettres? En fait, il gère le monde par je crois qu'on est aujourd'hui à 10 puissance 21, nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers. 10 puissance 21, ça fait 1 milliard, 100 milliards de milliards. C'est beaucoup, beaucoup. D'accord? Et ça augmente avec le temps. À quoi servent toutes ces galaxies et tous ces milliards d'étoiles? Hachem sert beaucoup de choses. Mais entre autres, Hachem va, on appelle ça le mazal. Le mazal, la gestion de l'humanité, de toute la nature, tout passe par le biais de ces étoiles-là. Maintenant, dans les étoiles, alors il y a le 10 puissance 21, mais aussi des choses essentielles. Il y a notre système solaire, qui est composé de 9 planètes. La Torah va dire qu'il y en a 7 qui sont 9. On ne les voit pas toutes. 7 qui sont 9. Il y a 12 signes zodiacales. On partage ciel, d'accord, en 12 parties, et chaque mois correspond à un autre signe du zodiaque. Et enfin, il y a, qu'est-ce qui nous manque maintenant? Trois bases du monde. L'air, le feu et l'eau. Et aussi la terre, mais bon, la terre, elle est la base des bases, d'accord? On va prendre en considération. Le feu, l'eau et la terre. Pardon, l'eau, le feu et l'air. Et par le moyen de tous ces éléments, Hachem va gérer le monde. Maintenant, quelles sont les lettres qui correspondent au feu, à l'air et à l'eau? Le feu, c'est Shin, Esh. Dans sa forme, on voit un peu comme un feu, comme ça. L'air, c'est Aleph, Avir. Et l'eau, c'est Mem, Maim. D'accord? Ça, ce sont les trois lettres qui correspondent aux trois bases. Quelles sont les sept planètes qui sont neuf? Ce sont les sept lettres en hébreu qui peuvent prendre un dagesh. Kaf, Chaf, Bet, Vet, etc. Pourquoi est-ce que c'est 7 et 9? Parmi ces 7 lettres, il y en a deux qui peuvent être autres finales aussi. Le Kaf et le P. Très bien. D'accord? 7 qui sont 9. Reste 12 lettres. 3 et 7, ça nous fait 10. Ça, c'est encore 12 pour arriver à 22. Ce sont les 12 signes du zodiaque. Le premier livre de Kabbalah qui était écrit dans l'histoire, est écrit par Abraham Avinu, s'appelle Sefer Yetzirah. Avait dit le rapport. Chaque mois, chaque lettre, chaque tribu, chaque membre, enfin, il fait tout un rapport, voilà. Pas à lire, on ne comprend pas, c'est trop. Hein. Jamais lu de ma vie, je sais qu'il existe. Une fois, j'ai entendu qu'on disait au nom de ce livre, d'accord? Abraham Avinu.
Il est encore en
vol? Ah ouais, on peut acheter son librairie, ça coûte 50 shekels, et tu vas avec le commentaire du Ravad. D'accord? Sefer Yetzirah, le livre de la création. Hachem a voulu que toute cette gestion que se faisait de haut en bas se fasse de façon horizontale. Pas que Hachem est en haut. Et il agit sur le Mazal, le monde astrologique. Et ensuite, ça arrive sur l'humanité, mais que son trône soit à l'intérieur du peuple d'Israël, que de là-bas, tout rayonne sur l'humanité entière. Où a-t-il fait cela? Dans le désert. Dans le désert, il y avait le sanctuaire, la présence divine, et il y avait trois campements. Le premier campement, c'était Mahane Shrina, le campement de la Shrina, avec dedans Moshe, Aaron et Myriam, les trois fils de Amram, fils et filles de Amram. Ensuite, il y avait Mahane Leviya, le campement des Lévites, et ensuite Mahane Israël, le campement des tribus d'Israël. Ça correspond exactement aux lettres. Les trois Mahane Shrina, Moshe, Aaron, Myriam, Moshe, c'est l'air, le plus spirituel de l'humanité, celui qui est moitié ange, on disait, d'accord, il va dans le ciel et reçoit la Torah pendant 40 jours, il ne mange pas, ne boit pas, etc. Le feu, c'est Aaron à Cohen qui s'occupait du feu, d'accord, les sacrifices, et Myriam avec le puits d'eau qu'elle amenait, donc les trois bases. Ensuite, les Lévites, sept familles de Lévites. Lévi, il avait trois enfants, Gershon, Kehat et Merari, et ils avaient en tout, à part la famille de Moshe, Moshe et ses frères et sœurs, il restait sept familles de Lévites qui étaient dans le campement, deuxième campement de Lévites, correspondant aux sept planètes du système solaire, qui sont neuf. Reste 12 tribus, 3 de chaque côté, et on a maintenant le peuple d'Israël, et de là, ça rayonne, et Dieu exerce la gestion du monde depuis le peuple d'Israël. Ça, c'était tout à fait provisoire. L'armée d'Israël arrive maintenant au temple à Jérusalem, et de là-bas, ça part. À cause de nos péchés nombreux, le temple a été détruit, et on n'a plus cela. Et, comme un enfant dont le papa est parti à l'étranger, il y a bien longtemps, quand il était petit, il avait 6 mois, et sa mère attend que son papa, son mari revienne, d'accord? Elle raconte à son fils, et son fils aimerait bien, comment papa, 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 voilà. Mais il n'a jamais vu papa. Et il ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Alors nous, c'est la puissance 1 milliard, d'accord? Impossible. On parle maintenant de la présence divine. Il y avait à Jérusalem, il y avait à l'entrée de Jérusalem, juste dans la muraille, il y avait un endroit qui s'appelait la Kippa. C'était une sorte de coupole comme ça. C'est là-bas où les gens allaient faire leurs calculs. C'était interdiction de faire les calculs, ton bilan de tes affaires aujourd'hui, dans Jérusalem. Jérusalem est appelé Mesos Kol Haaretz, c'est la joie de tout l'univers. Quand quelqu'un y fait maintenant son bilan, il voit, il a gagné, il a peur, il ne sait pas, oui, non, il est un peu angoissé. Angoissé à Jérusalem, dehors. Tu vois là-bas, la muraille, c'est juste là-bas, extérieur, pas dedans. Il y avait des miracles extraordinaires. Quand il y avait un problème de Emouna, ils vont au temple, comme aujourd'hui, une tempête, là, un vent de 80, 120 km, je ne sais pas combien, là, ils voyaient la fumée des corbanotes, des sacrifices qui montaient tout droit, comme ça. Et plein de sang. En plein été. Pas une mouche. Pas une mouche. Il y avait, au temple, il y avait le misbéach, l'autel, et il y avait une rampe qui montait vers l'autel. Maintenant, au début de la rampe, à droite, il y avait des dalles. D'accord? Tout était dallé. Un endroit qui s'appelait comme un déchène, l'endroit du déchène. Là-bas, on mettait deux choses. On mettait les cendres, parce qu'au bout de moi, il y avait beaucoup trop de cendres. Alors, on mettait le trop plein de cendres là-bas. Et aussi, les volatiles qui étaient sacrifiés, donc des pigeons, par exemple. Alors, il y a un problème avec le pigeon. Pourquoi? Il se nourrit de vol. Il va des fois dans un champ qui ne lui appartient pas, il pique une petite graine, hop! Voleur. Comment on peut sacrifier un voleur à Dieu? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le Cohen faisait un trou comme ça, une sorte de colonne, et prenait tout le tube digestif, tout le système digestif, jetait ça par terre. Qu'est-ce qu'il y a dans le tube digestif? C'est aussi des excréments en partie, d'accord? Ça ne sent pas très bon. Jetait ça par terre, le reste, on sacrifiait à Hachem. Ok, alors au bout d'un moment, tu as un gros tas comme ça de tube digestif de pigeons. En plein temps, c'est pas agréable. On s'est marqué, Ayunivlaim bimkomam. Ils étaient avalés sur place. Comme un soldat allé, c'est bloup, plus rien. Des tonnes de cendres, bloup, plus rien. Des tonnes de tubes digestifs, bloup, plus rien. On voyait ça de nos yeux. Ça, c'est ce que je te dis maintenant, c'est des petits trucs de rien, c'est les petits tours de magie, d'accord. La présence divine. Mais comment je peux en parler? Tu me dis qu'on sent Jérusalem, la présence. Oui, il y en a qui sentent un peu la kedusha de Jérusalem. C'est déjà bien de la sentir, aujourd'hui. Mais c'est rien de rien. Quand Hachem reviendra très 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 bientôt, Be'ezrat Hachem. Ah là là, j'ai envie de vous en parler. Ça fera l'objet d'un autre cours. D'accord?
Je sais pas, je sais pas. Comment on nous demande de regretter cette
histoire? Ce qu'on peut.
Si on nous demande de pleurer, mais on pleure sur quoi? On sait pas ce que c'est.
Plus on se rapproche d'Hachem, plus notre amour pour Hachem grandit, plus son absence se fait ressentir. Un mari dont la femme est partie, ou une femme dont le mari est parti, d'accord, plus elle souffre de son absence, plus elle prouve qu'elle l'aime. Donc, on va dans l'autre sens. Comment on va faire pour plus souffrir de l'absence? On va plus aimer. Plus on comprend la grandeur d'Hachem, plus on comprend le grand chilou Hachem qu'il y a. Comment ça se fait que Dieu est le maître de tout, il est bon, il veut le bien? Et à cause du mal qu'il y a dans le monde, il y a, que Dieu a voulu, Dieu a permis qu'il y ait le mal, mais nous, on a de notre propre libre arbitre, on choisit de faire le mal, on amène le mal dans le monde. Ça va aussi mal que ça. C'est terrible, d'accord? T'as beaucoup de mal et beaucoup de souffrance. C'est une situation qui est anormale. Nous voulons qu'Hachem se dévoile, qu'enfin il y ait la vérité, que tout le monde reconnaisse la grandeur d'Hachem. Et quand quelqu'un désire cela beaucoup, alors il est en situation de souffrance quand il voit que cela ne se réalise pas. En cela, il y a la grande mitzvah que j'essaye de renforcer chez nos frères juifs, de tziper à l'échoua, de mitzvah, d'attendre la geoula. Comment? Avec une impatience extraordinaire, puissante, terrible. On n'en peut plus. Si on attend, Machar, il vient. On n'attend pas, il vient pas. Alors, Bessam Machaoli m'a dit, quand un invité doit venir à la maison, il faut l'attendre. Peu de gens attendent Machiar, comme ça il m'a dit il y a 30 ans. Peu de gens attendent Machiar. Bon, on espère qu'aujourd'hui, il y en a plus, avec tous les malheurs qui nous entourent, tous les gens se mettent à appeler, à attendre, à attendre. Ben, dans Hachem, il viendra très très bientôt, j'espère, Berachamim.
Dans le reste de la ville, à part le Beit HaMikdash, il y a de la Kedusha dans toute la ville.
Bien sûr.
Et ça veut dire qu'il y avait moins de Kedusha dans le reste de la ville?
Ne serait-ce que, par exemple, le Maaser Sheni, on peut le manger qu'en sainteté, dans l'enceinte des murailles. Tous les corbanotes, qui sont les Kodashim Kalim, il y a deux des corbanotes qui sont Kodashim, les saintetés graves, saintetés légères. Toutes les saintetés légères peuvent se manger dans toute la ville, saintetés graves, que dans l'enceinte du temple. Mais pas à l'extérieur de la ville. Donc on voit qu'il y a une sainteté spéciale à Yerushalayim, c'est clair. C'est clair. Moi, je dis à tout le monde, si quelqu'un maintenant veut investir, il faut investir dans l'immobilier à Jérusalem, parce que dans quelques jours, allez, on va être gentil, quelques semaines, le mètre carré à Jordan vaudra des milliards, de milliards, de milliards, de milliards. Il n'y aura pas de prix. Pas de prix. Bien sûr, j'ai déjà dit cette Gemara qui dit que c'est une halakha aussi, un Shulchan Aruch, Ebenezer, chapitre 75, que s'il y a un couple qui habite non Jérusalem, mais Israël, d'accord, ou que ce soit en Israël, et l'un des deux veut monter à Jérusalem, l'autre ne veut pas, ils peuvent divorcer, et celui qui ne veut pas monter, ben, il ne reçoit rien. Ou il paye tout, d'accord. Si la femme ne reçoit rien, et si c'est le mari, il paye tout, la ktouba, le truc, etc. Donc c'est écrit à Kol Ayin Yerushalayim, tous montent à Jérusalem. C'est l'endroit de prédilection qu'Hachem aime, veut, et on prie sans cesse qu'il revienne, que nos yeux le voient revenir à Yerushalayim. Que nos yeux voient ton retour à Sion. On le verra de nos yeux, celui qui protège les yeux. Il ne protège pas les yeux, comment il peut voir Hachem revenir? Ça ne mange pas ensemble, c'est évident.
Ken. Est-ce qu'il faut commencer à acheter un appartement aussi?
Moi, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, achète. Ça se peut que ceux qui mériteront recevra, mais je ne pense pas que ma chère Vendra, il pourra désapproprier, à part pour son palais, les choses qui sont nécessaires pour la royauté du Mashiach. Quelqu'un, il a acheté, cela appartient. Ça reste, qu'on ne va pas lui voler ça, d'accord? À moins qu'il y ait une raison, comme je l'ai dit, de la royauté du Mashiach.
Hein?
Hein?
On peut acheter.
Ce que je te dis, alors, c'est écrit que les faubourgs de Jérusalem arriveront jusqu'à Damas. Donc achète près de Damas.
C'est bien aussi. Et les gens qui sont à l'étranger et qui n'achètent pas, où est-ce qu'il va les placer, mon cher?
Mais t'as un problème, t'as vu combien de terrain vide on a ici? D'abord, on aura environ 1,5 million d'appartements vides qu'on pourra occuper sans aucun problème. Ah, ça, voilà. Ça, c'est clair. C'est bon? Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur c'est une question, c'est plus la personne est proche d'Hachem, comme je dis. C'est un travail de émouna et d'amour d'Hachem. Plus l'amour d'Hachem sera grand, plus son absence se fera sentir dans notre cœur. Et plus il y a de quoi pleurer. Et c'est vrai qu'au niveau, le fils de Yosef raconte que son père, Tisha B'Av, il pleurait. Et le reste du monde, on essaie de pleurer, d'accord? Il y en a qui pleurent parce qu'ils n'arrivent pas à pleurer. C'est déjà bien. Oui. Celui qui est réveillé de toute façon, à 11h40, au lieu de rien faire, de bêtement perdre son temps, faire Tikkun Rassol, bien sûr.
11h40.
Ouais. Ouais. C'est très dommage. Alors, profitez-en. 11h40, Tikkun Rassol, c'est très grand comme Tikkun. Rester réveillé exprès pour cela et mal étudier le lendemain, non. Mais si quelqu'un m'attend, il arrive de toute façon, alors qu'est-ce que tu perds ton temps? C'est un moment très très kadosh. Toujours par terre. Sous la mezouza, si tu peux. C'est pas toujours pratique, d'accord? Le minimal syndical, c'est par terre, même pas moins. Tu as un mariage maintenant, tu vois, c'est le moment. Tu peux le faire assis aussi sur la table. Mais si tu es chez toi à la maison ou dans ta chambre ici, tu te mets par terre avec quelque chose qui fait écran entre ton corps et le sol, donc un coussin, une serviette, etc. T'enlèves les chaussures. Tu mets des chaussures de, ouais, ou des pantoufles, enfin, pas des chaussures de cuir. Et tu lis dans le sidour, Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Rosh Chodesh fait que Tikkun Léa. Et pas assis. Tous les jours, on fait pas Tachanoun. Tu le fais pas assis par terre, assis sur une chaise, normal. Que quand on fait Tachanoun, on fait aussi Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Et on fait les deux assis par terre. C'est bien. Alors, maintenant, pour faire mieux, tu te mets sous la mezouza. Encore mieux, tu mets un peu de cendre ici. Et un peu mieux, tu pleures.
Si on peut le faire par terre dans la finale, si?
Ouais, tout à fait. Ouais. C'est pas marqué comme ça. C'est marqué que le Mashiach, il vient. Bon, on est en train de passer sur un autre sujet là. Mais si tu me poses la question, on va y répondre tout de suite. Alors, c'est marqué que trois choses viennent avec inconscience. Un scorpion, une trouvaille et Mashiach. Une trouvaille, tu peux pas dire maintenant, je vais faire un tour, tu vas où, je vais chercher une trouvaille. Non, tu te balades, ah ouais, j'ai trouvé, d'accord. Un scorpion, c'est pas, tu lui dis, allez, je vais me faire piquer par un scorpion. Enfin oui, mais d'habitude, quand tu le vois, c'est par... Et Mashiach, il vient par surprise aussi. Tu me dis, ouais, mais tout le monde l'attend. D'abord, on l'attend pas. Ensuite, celui que nous attendons, c'est pas lui. Chacun l'imagine, si c'est un Litaï, il est avec Litaï, c'est Hasidi, Hasidi, c'est les Misro, il est Misro, c'est etc. Et tous on sera super étonnés parce qu'il sera vrai et nous on n'est pas vrai. On n'est pas vrai. Avec lui, il y aura un dévoilement de la chaîne terrible et on sera super surpris. Enfin, je veux dire, c'est dommage. On était inconscient. On est complètement inconscient. On parle Mashiach. Mais qui est conscient de ce que c'est? On était conscient de ce que c'est, mais on ferait une tchouva à l'époque du faux Messie Shabbat Tzvi. il y a 400 ans environ, d'accord, une grande pub comme quoi c'était le Messie, et les gens ont cru. Beaucoup, beaucoup de peuples juifs ont cru. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Les femmes et les enfants faisaient des jeûnes 3 jours consécutifs, 72 heures sans manger et parler, sans manger et boire. 72 heures, des enfants, des femmes. Ils n'avaient rien comme signe comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tout. Mais tout, tout, tout. D'accord? Et on bouge quelque chose. Allez, peut-être qu'on fait un petit quelque chose, un petit minus en plus. Inconscient parfait. Donc ça correspond aussi tout à fait à ce que dit la Gemara. Baruch Adonai, Olam Amen, Amen.